44, il est là. Olivier de Royer, Montpensier Bevel, bonjour Olivier.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Vous allez rendre votre verdict face au marché, ce verdict que vous allez rendre, ce moment qu'on va vivre ensemble. Est-ce que vous l'assumez ?
Oui, parfaitement.
On vous écoute.
Alors l'IA, est-ce que l'IA n'est pas en train d'avoir la peau des rachats d'actions ?
Quand même. L'IA est-elle en train d'avoir la peau des rachats d'actions ? Les rachats d'actions qui ont fait monter les marchés ces dernières années, qui ont fait monter Apple par exemple. Et vous dites aujourd'hui, en posant la question, mais c'est une façon d'y répondre, que l'IA est peut-être en train de nous mener vers la fin des rachats d'actions.
Alors la fin, peut-être pas, mais une modération en tout cas claire. C'est vrai que c'est un moteur, c'est important de rappeler, c'est l'occasion de rappeler que c'est quand même un gros moteur de hausse des marchés américains. On parle de 1000 milliards de dollars sur le S&P l'année dernière. Sur 10 ans, on estime que ça a contribué à peu près à 25% de la croissance des BPA et du S&P. Ah, oui. Et d'ailleurs, quand on compare, on dit toujours les États-Unis performent mieux que l'Europe. Évidemment, il y a le mix avec plus de tech, mais il y a aussi quand même ces rachats d'actions qui sont un contributeur absolument non négligeable. Donc c'est vrai que les entreprises américaines, c'est des grosses génératrices de free cash flow et puis elles en profitent pour acheter leurs actions et faire que leur BPA croisse plus vite que leurs résultats opérationnels. Mais évidemment, à l'heure de l'IA, de temps en temps, entre investir et acheter ses actions, eh bien il faut choisir. Puisqu'on a une hausse des investissements du S&P de un tiers attendu cette année, ce qui est massif. Évidemment, sur la tech, c'est encore plus. Les hyperscalers investissent. Il y a cette frénésie d'investissement dans les data centers. Et pour le financer, sans trop alourdir la structure financière, malgré des levées de fonds que vous avez largement évoquées, il faut faire attention au rachat d'actions. Donc, il y a une étude de Goldman Sachs qui est parue, qui attendait simplement cette année une hausse de 3% des rachats d'actions. Alors, ça reste une petite hausse. Au premier trimestre, on était en baisse quand même, mais on attend une petite hausse sur l'année. Historiquement, hors période d'inquiétude majeure où là, il faut faire attention, donc surtout on arrête parce qu'il faut préserver les bilans. Quand on n'est pas dans un bear market, en général, en moyenne annuelle, on est sur du plus 20 sur les rachats d'actions des sociétés du S&P.
Ah oui.
Donc plus 3, c'est quand même moins. Et ça peut assécher un peu la liquidité, sachant qu'on a aussi ces méga IPO à venir qui vont également consommer un peu de liquidité. Donc, surveillez quand même l'environnement de liquidité des marchés globaux.
Oui, donc peut-être à venir de moins en moins de rachats d'actions parce que les entreprises préfèrent investir leur argent dans de l'infrastructure d'IA, etc. etc. C'est-à-dire que ces montants gigantesques d'investissement dans les infrastructures vont se faire sans doute au détriment de ces rachats d'actions qui profitent aux actionnaires. C'est ça l'idée.
C'est ça l'idée, complètement.
Bon, et du coup, quand on est actionnaire, qu'est-ce qu'on doit privilégier ? Plutôt ceux qui rachètent leurs actions, par exemple Apple continue de racheter beaucoup de ses propres actions, ou ceux qui annoncent des investissements importants ?
Alors en fait, ça, tout dépend de la valorisation de la société. C'est-à-dire que si finalement on est sur une valorisation de la société qui est modérée, les rachats d'actions c'est formidable, puisque finalement on investit dans ce qu'on connaît, il n'y a pas de risque et il y a une création de valeur immédiate si la société est sous-valorisée. Bon, c'est quand même pas forcément le cas de beaucoup aujourd'hui. Enfin, il y a des secteurs qui le sont, mais le gros poids des marchés, la tech, etc., on ne peut pas dire que ce soit sous-valorisé. Les marchés sont globalement sur des multiples qui sont élevés. Donc, dans l'ensemble, racheter les actions, bon, sur le long terme, ça fait quand même une capitalisation de la croissance, mais sur du plus court terme, ça ne crée pas de valeur. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plutôt mieux d'investir, mais à condition qu'on soit vraiment sûr de la rentabilité des projets d'investissement.
Quand on regarde la rotation dans la tech, c'est quand même très impressionnant. Les 7 magnifiques, est-ce qu'on peut encore les appeler comme ça ? 5 des 7 magnifiques sous-performent le S&P 500 depuis début 2025. 5 des 7 magnifiques sous-performent le S&P, sauf Nvidia et Alphabet.
Oui, alors bon, je ne sais pas s'il faut y voir grand-chose. C'est-à-dire que tant qu'on a un leadership global tiré par la tech, on a des petits mouvements comme ça de rotation entre les gagnants, les perdants de l'IA. On a vu les softwares qui étaient massacrés puis qui ont rebondi depuis fin mars. Et aujourd'hui, c'est particulièrement visible. Donc, je pense que tant qu'on est dans cet environnement-là, on va dire que les uns peuvent rattraper les autres. Ce qui est sûr, c'est que il y a quand même ces investissements énormes et on ne sait pas vraiment qui va être le gagnant, qui va bien monétiser. Aujourd'hui, est-ce que finalement, il n'y a pas que Anthropic et OpenAI qui vont réussir à monétiser ? Est-ce qu'il n'y aura pas qu'un ou deux gagnants ? On ne sait pas. Par contre, on sait une chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a des investissements massifs dans les infrastructures. Donc aujourd'hui, en fait, les investisseurs, et notamment en particulier, se ruent sur les semi-conducteurs. On est à 4 fois la détention moyenne historique des semi-conducteurs dans les portefeuilles.
Ah oui.
Oui, c'est pas mal quand même.
Du fait des effets de levier aussi.
Effets de levier. Mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui, ce qu'on voit concrètement, là où il y a des révisions en hausse constantes, c'est dans toute l'infrastructure de l'IA. C'est là qu'est l'argent maintenant. Alors que finalement, la rentabilité pour ceux qui investissent, on voit quelques monétisations. Mais est-ce qu'on va être capable de tout rentabiliser à quel rythme ? On n'en est pas encore sûr.
Antoine ?
Une question simple. Il y a quand même la méga introduction de SpaceX qui s'annonce, théoriquement, la semaine prochaine. Est-ce qu'il faut en être ou est-ce qu'il faut pas en être ?
Alors, question complexe. Tout est organisé pour que ça monte. Tout organisé pour que ça monte. Vous parliez à l'instant de Jamie Dimon. Tout le monde est prêt à faire la danse du ventre parce que tout l'ensemble des commissions que rapportent à la fois SpaceX, mais toutes les sociétés d'Elon Musk aux banques américaines sont considérables. Donc même quelqu'un qui est par nature prudente comme Jamie Dimon est prêt à faire la danse du ventre. En plus de ça, on met que 4% du capital sur le marché. Donc on parle de 75 milliards de dollars de levée de fonds. Mais en fait, il y a pratiquement un corner de liquidité. C'est-à-dire qu'on met une toute petite part du capital, il n'y a pas de cession. Alors il y en aura après les premières publications. À partir de la publication du deuxième trimestre, Elon Musk ne vendra pas, mais beaucoup d'autres actionnaires pourront commencer à vendre. Donc à ce moment-là, on aura plus de flux. Mais à court terme, tout est organisé pour que ça monte. Donc à moins qu'effectivement le marché américain se prenne de vertige, c'est organisé pour que ça monte. Fondamentalement, bon, on est à 100 fois le chiffre d'affaires 2025, c'est quand même beaucoup pour une société en perte. Qu'est-ce qu'on peut valoriser là-dedans? La partie Starlink. Starlink, c'est 11 milliards de chiffre d'affaires et 40% de marge EBITDA. Enfin, même avec des lunettes très, très, très roses, on peut pas aller au-delà de 500 milliards de valorisation boursière sur Starlink. Le total est à 1800. Donc après, le reste, c'est XAI qui est finalement quand même derrière Anthropic et OpenAI. C'est toute la partie effectivement historique fusée. Alors les contrats gouvernementaux, militaires, c'est sans doute rentable, mais le reste, c'est peut-être une rentabilité en des décennies. Donc la valorisation est très conceptuelle. Voilà, on peut vouloir jouer. Après, sur le très long terme, quand même, malgré tout, Elon Musk, c'est quand même quelqu'un qui a des idées. Et peut-être que, bien sûr, à un horizon de 10 ans, de 15 ans, il y a des marchés qui seront énormes là-dedans. Et donc, après, je pense qu'effectivement, pour construire une vraie position, il faudrait sans doute avoir un cours plus attractif ou alors le même, mais avec une société qui aurait avancé de plusieurs années. Donc, ça reste quand même très spéculatif à court terme.
Et ce que vous disiez est intéressant sur le calendrier, c'est-à-dire qu'au tout début, les premières semaines, tout est organisé pour que ça monte, pour que le titre monte. En plus, il devra être intégré dans plein d'ETF, les ETF qui sont énormes. Désormais, le plus gros ETF du monde, il fait plus de 1 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion. C'est gigantesque, c'est Vanguard. Donc, quand ces ETF doivent pondérer, en plus, intégrer un groupe comme SpaceX, on imagine que ça va porter le titre à la hausse. Mais vous disiez, à partir de la deuxième publication, alors là, il pourrait.
Donc, la première publication, mais c'est le deuxième trimestre, puisque c'est la première publication après la cotation. Ouais. Là, ils ont le droit de commencer à vendre. Alors, il y a des mécanismes un peu subtils, ils peuvent pas tout vendre juste le lendemain, mais enfin, plus le temps passe, plus ils ont le droit de vendre.
Ah oui, d'accord. Bon, ouais, écoutez, c'est intéressant. A priori, le 12 juin, c'est ce que vous avez en tête aussi comme date pour l'introduction.
Oui, c'est ce qu'on nous a dit.
À 99%. Il y a un petit pourcent de risque encore que ça bouge, mais a priori, donc, on irait là-dessus. L'espace, vous allez renforcer l'espace dans vos portefeuilles chez mon pensier Bevel?
Non, pas forcément, non. Parce qu'en réalité, quand on regarde, il y a quelques acteurs européens qui ont monté par sympathie. C'est vrai que les ordres de grandeur de valorisation n'ont rien à voir, mais enfin, elles font pas d'IA. Et puis, c'est en fait le paradoxe, c'est que c'est des sociétés qui sont plutôt disruptées, malheureusement, par SpaceX et Starlink. Et finalement, le fait que SpaceX arrive à lever énormément d'argent, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour eux. En plus, il y a des titres qui ont déjà beaucoup monté en anticipation. Donc, non, malheureusement, on trouve pas aujourd'hui de titres particulièrement attractifs dans ces dynamiques.
Et alors, chez nous, en Europe, on voit donc les acteurs des logiciels aujourd'hui rebondir. Capgemini, Dassault Systèmes, SAP en Allemagne. SAP gagne 4,8%. Très bien. Hier, on a vu Valeo gagner quasiment 20% sur l'idée que Valeo pourrait devenir une valeur IA. À qui le tour, là?
Ouais, c'est vrai que c'est un peu fou parce qu'en fait, on voit que quand vous avez des secteurs qui sont un peu délaissés, il suffit de pas grand chose, d'une toute petite connexion à l'IA. Effectivement, Valeo, quand on regarde les chiffres, enfin, on parle de moins de 1% du chiffre d'affaires qui est potentiellement dans le refroidissement des data centers. C'est pas les seuls à savoir refroidir les data centers. Même si Elon Musk les met dans l'espace, il y aura plus besoin de les refroidir. Donc en fait, on est un peu dans quelque chose de délirant par rapport à l'importance que ça a réellement. Mais c'est vrai que avoir quelques dossiers un peu délaissés, peut-être pas au cœur des sujets qui intéressent tout le monde, avec des valorisations très basses, parfois on arrive à avoir ce genre de choses. Mais pour le marché en général, c'est quand même pas un signal très positif. Ce genre de comportement un peu irrationnel. Attention quand même.
Historiquement, quand on a vu ce genre de comportement, c'était le signe effectivement
c'était
qu'on entrait aux zones.
Bon, ouais.
Ouais. Du coup, hors tech, parce qu'on parle beaucoup de tech, mais quelle est votre valeur préférée si on sort de la thématique pure IA?
Alors, il y a une valeur qu'on trouve intéressante, c'est Novonesis. Alors, Novonesis, c'est une société danoise, fusion de Christian Hansen avec Novozymes, deux belles sociétés de croissance historique qui se traitaient 35 à 40 fois en termes de PE.
Mais dans quel secteur?
Aujourd'hui, on est à 22 fois. Alors, en fait, c'est le leader mondial des enzymes qui se sont déclinées dans plein de secteurs, alors notamment dans les détergents, par exemple. Ils sont aussi très bien placés dans les protéines, dans l'agroalimentaire. Vous savez qu'avec les les GLP1 qui font maigrir, effectivement, il y a besoin de se renforcer musculairement. Donc tout ce qui est à base de protéines dans l'agroalimentaire, dans l'alimentaire, c'est quelque chose qui a plutôt une bonne traction. Et puis ils sont aussi dans les biocarburants. Et avec la crise en Iran, en réalité, on voit qu'il y a des propositions de loi, notamment aux États-Unis, qui visent à augmenter la part des biocarburants dans les mélanges de carburants. Donc ça, c'est plutôt supportif. C'est vrai que c'est une très belle société de croissance, mais qui aujourd'hui, voilà, à 22 fois pour une société de très grande qualité, est bien plus bon marché que son historique long terme.
Olivier de Royer avec nous, et vous leur avez souhaité un joyeux anniversaire hier, Olivier, ou pas?
Ah.
LVMH. 39 ans hier. Hier, LVMH a fêté ses 39 ans. C'était le 3 juin 1987. Louis Vuitton et Moët Hennessy se rapprochaient. Voilà.
Ah oui, mais enfin, Louis Vuitton a près de 200 ans. Donc, c'est vrai.
Ah oui,
que...
c'est vrai. À 39 ans, on est un jeune adulte encore ou on commence à vieillir? Quand on pense à LVMH, 39 ans, vous y voyez un très jeune adulte encore ou un groupe qui vieillit?
Bah, on peut voir les deux. Mais enfin, bon, les marques sont parfois beaucoup plus vieilles. Même Dom Pérignon, je crois que ça remonte aux années 1650. Non, ils ont aujourd'hui une phase compliquée parce que ils ont une double crise de croissance. Il y a une crise de croissance du secteur. On voit que le moindre appétit des Chinois et puis peut-être la fiscalité dans certains pays occidentaux fait que c'est un peu compliqué pour le secteur. Et en plus de ça, eux-mêmes ont une petite perte de momentum par rapport à leur marché. Ceci dit, bon, ils ont déjà connu ça. Hein. En des années 2011-2012, ils sous-performaient un peu leur marché et ils ont trouvé les moyens de se réinventer. Donc, ils y arriveront certainement. Mais en ce moment, le momentum est assez médiocre. Donc, je pense que ça... Voilà, si on a du LVMH, il faut avoir à l'esprit que ça devrait s'arranger sur le temps long, mais qu'aujourd'hui, on est dans une phase qui est un peu compliquée.
Vous voulez bien rester avec nous, Olivier?
Avec plaisir.
Olivier Droyer, il est en fil rouge avec nous cet après-midi. Alors, on parlait de l'âge d'LVMH. Figurez-vous que l'espérance de vie est amenée à baisser. L'INSEE a publié ses projections d'espérance de vie en 2070. Quelle sera l'espérance de vie des Français en 2070? Eh bien, elle sera de 88,1 ans. C'est bien, 88, c'est plus qu'aujourd'hui. Mais c'est moins que ce que se projetait l'INSEE initialement. Pourquoi? Thibaut Prébet nous l'a expliqué. C'était la Data Room d'hier, elle cartonne cette Data Room en podcast et replay, toujours disponible sur l'application BFM Business.